Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Un nouveau film par le maître du thriller psychologique, Dario Argento.
Je suis entrée dans le tableau, c'était comme si, tout à coup, je plongeais dedans. Je sais, ça paraît fou.
Ce qui vous est arrivé à la galerie des offices, nous l'appelons le syndrome de Stendhal.
Votre arme, je l'ai, inspecteur Manny.
Le syndrome de Stendhal.
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à un immense cinéaste, récemment honoré de la sortie de 4 films dans de superbes éditions signées Extra Lucid Film, l'un des réalisateurs préférés de votre serviteur, un maestro que nous avions eu l'occasion d'interviewer en 2011, la légende Dario Argento. Nous aborderons aujourd'hui le syndrome de Stendhal, le sang des innocents, The Card Player, Lunettes noires, des films qui jalonnent sa deuxième partie de carrière. Une partie de carrière souvent oubliée, mal aimée, mésestimée. Et c'est pour ça qu'on voulait absolument consacrer une émission spéciale à ses sorties, puisque c'est un choix courageux de la part de l'éditeur Extra Lucid Film et qu'on voulait saluer. D'ailleurs, on remercie, l'équipe de Culture Prohibée remercie Karine Bach et Patrice Véry pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur theextasyoffilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer Dario Argento, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demé, alias la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube, et qui donc nous fait l'honneur d'être dans ce studio. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Alors, il y a longtemps été de bon ton de considérer que tous les films réalisés avant Phenomena étaient tous sensationnels. C'est-à-dire, on met un peu de côté Les 5 jours de Milan, qui est un peu un film à part, qui était une production comédie historique qu'il a réalisé parce qu'il a fallu le réaliser, par contrainte, parce qu'il n'avait plus de réalisateur pour le faire, qui est pas inintéressant d'ailleurs, sur la révolution italienne, mais... On va plutôt parler de son travail plus personnel, c'est-à-dire tous les films qu'il a réalisés, alors y compris même ses travaux télévisuels, comme Il Trame, tout ça. Parce qu'Il Trame a une résonance avec l'un des films dont on va parler là, c'est pour ça que d'ailleurs que ne manque pas de souligner l'ami Jean-Baptiste Torré dans les bonus, qui est plus argentophile que lui, on meurt, évidemment, puisque Jean-Baptiste Torré qui a contribué à faire d'Argento un cinéaste pris au sérieux par la critique française, avec un ouvrage particulièrement pertinent sur Dario Argento. Jean-Baptiste Torré est intervenant dans les bonus là, sur tous les films, et il donne son avis sur les films et puis il remet un peu dans le contexte. Mais Jean-Baptiste Auré, dans les bonus, lui, il dit que c'est vrai que jusqu'à Opéra, Terreur à l'Opéra, on considère que Dario Argento est un immense metteur en scène. En vrai, moi, je me rappelle, en tout cas, la critique spécialisée, l'écran fantastique, Mad Movies, tout ça, eux, même à partir de Phenomena, commencent à dire que c'est pas terrible, quand même. Je me rappelle qu'à l'époque, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais ils commencent à dire que c'est pas terrible, et qu'en gros, Argento, on va prendre Le Chat à 9 queues, 4 mouches de velours gris, évidemment, L'Oiseau au plumage de cristal, qui est le film qu'il fait connaître, puisque en 70, il lance vraiment la vogue du giallo. Faut dire les choses, c'est pas le film de 64 de Bava, 6 femmes pour l'assassin, qui lance la mode du giallo. Bava, en faisant son crimi un peu étrange, un peu plus sadique, un peu plus sadisé aussi, voilà, un chef-d'œuvre. Bava, en fait, réalise le premier giallo moderne de l'histoire du cinéma, le premier giallo en tant que tel, qui a fortement influencé Argento, d'ailleurs, hein, évidemment. Mais Argento, en fait, le succès commercial du giallo en Italie, ça arrive avec L'oiseau au plumage de cristal, qui sort en 70, de Dario Argento, qui fait un carton. Alors, on va pas revenir sur toute l'histoire du film, les difficultés, les sorties dans différentes villes et tout, le fait que le film a failli foirer, parce que on a parlé déjà de tout ça dans l'émission, y compris avec le Vittorio Storaro, qui était directeur de la photo, qui est venu dans notre émission en parler, y compris avec Dario Argento lui-même, puisque aller sur notre page podcast et puis aller récupérer les vieilles émissions, voilà, et réécouter ça, c'était dans les... Ça date, hein, 2011, ça commence à ne plus être très récent pour l'interview d'Argento, c'est quand il était président du jury à Gérardmer. Mais, comment dire... Il est considéré, voilà, que c'est une période bénie pour Argento et qui trouve son aboutissement au niveau de giallo avec Profondo Rosso en 75, qui est vraiment les frissons de l'angoisse en français, qui est vraiment le chef-d'œuvre, le giallo ultime, absolu, parfait, enfin le giallo incroyable, enfin voilà, relecture en plus du travail d'Antonioni et du blow-up d'Antonioni. Voilà, et d'ailleurs, les relectures d'Antonioni ont donné deux chefs-d'œuvre dans l'histoire du cinéma, quand même, à la fois le Blowout de De Palma, qui est un chef-d'œuvre absolu, et puis Les Frissons de l'Angoisse d'Argento, qui est aussi un chef-d'œuvre absolu. Preuve d'ailleurs que c'est un chef-d'œuvre absolu, c'est que le film d'Argento, il est sorti mutilé d'une bonne vingtaine de minutes en France, et c'était déjà un chef-d'œuvre. Quand on lui a rajouté ses 20 minutes, c'était encore un chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Voilà, tandis que là, on va avoir, par exemple, dans les films sortis, on a une version plus longue du Syndrome de Stendhal, ce qui avait été enlevé, en fait, ce qui est rajouté là. Ne change pas profondément le film, en vérité. Voilà, je préfère avoir la version intégrale, comme tous les argentophiles et les cinéphiles. Mais bon, tandis que la version des Frissons de l'Angoisse intégrale, elle apporte beaucoup de choses en plus, quand même. Bon. Et puis après, Argento va s'orienter vers les sorcières, vers le fantastique, aussi sous l'influence de sa femme de l'époque, Daria Nicolodi. Hein, et en fait, il va y avoir Suspiria, il va y avoir Inferno, que moi je trouve génial, hein, qui est un film qui est carrément un voyage dans la psyché d'Argento. Et puis arrive Ténèbres déjà. Est un film qui est discuté, hein, par la critique, alors spécialiste à l'époque, puisqu'à l'époque, il n'a aucune reconnaissance critique, Argento, de la critique classique. Il n'est absolument pas du tout reconnu dans Positif, les cahiers du cinéma, tout ça. Enfin, c'est un réalisateur qui est complètement laissé de côté. Les seuls qui parlent d'Argento, c'est les fanzines et des Man Movies, qui a toujours soutenu Argento, et puis un peu l'écran fantastique et tout, mais ça, c'est un peu moins la came d'Alain Chlokhoff, le cinéma d'Argento, et c'est un peu plus celle de Jean-Pierre Putters, quand même. Donc Man Movies est plus le journal qui a vraiment soutenu Argento. Et Ténèbres divise, hein, c'est un film génial, hein, et qui est un giallo moderne, qui se passe dans un Rome... c'est important de revenir sur tous ces films parce qu'ils trouvent des échos là dans les films dont on va parler, qui se passent dans une sorte de ville de Rome déshumanisée avec une esthétique très très claire, très blanche, très lumineuse, mais alors dans le sens, vous voyez, presque saturé de blanc, presque, voilà. D'ailleurs, il y a une scène ultra célèbre, hein, avec celle qui deviendra d'ailleurs la femme de Berlusconi, qui se fait couper la moitié du bras. Et elle habite dans une habitation toute blanche, et son sang se répand sur les murs comme un Jason Pollock. C'est volontaire, hein, c'est vraiment une évocation de l'artiste par Argento. Et puis il y a ce fameux plan à la Luma. Donc, bon, il y a des critiques qui disent, ouais, bon, c'est plus le grand Argento, mais il est de Borest, voilà. Bon, ça commence. Il y a Phenomena, qui est un peu compliqué sur cette. Là aussi, un film qui a des échos, bien sûr, évidemment, avec les films dont on va parler aujourd'hui, hein, puisqu'on a dans Lunettes Noires une relation très forte d'une aveugle avec son chien, qui est quand même quelque chose, alors, qu'on voit chez Suspiria, mais qu'on voit beaucoup dans Phenomena, puisque c'est une jeune fille campée par Jennifer Connelly, qui est toute jeune, qui est même pas majeure, hein, quand elle joue dans le film, qui fait une adolescente, qui est dans une institution en Suisse, et qui, il y a Donald Pleasance, qui est un scientifique un peu spécial, et qui est sympathique, hein, qui est un personnage un peu sympathique, une sorte de professeur tournesol, en fait, hein, qui s'occupe d'animaux comme ça. Et puis il va rencontrer cette jeune fille qui, elle, communique avec les animaux, les insectes, donc Phenomena, et ils vont être confrontés, bah, oui, à la monstruosité d'un tueur qui est en fait un enfant maltraité, voilà, et parce que la maltraitance de l'enfance, là aussi, c'est quelque chose qui revient là, dans les films dont on va parler aujourd'hui. Parce que Argento, c'est un auteur quand même. Et du coup, il construit des thématiques qui reviennent tout au long de sa carrière. Et déjà, à l'époque, donc, on dit que c'est moins bien. Et puis après, il fait Terreur à l'opéra, que moi, je considère comme un immense film, hein, qui est ressorti chez Le Chat qui fume, qui est une, pour moi, qui est un peu la nuit du chasseur de revue et corrigée par Argento, et qui raconte cette histoire avec cette idée absolument géniale de tueur qui met des aiguilles sur les paupières de ses victimes pour ne pas... Enfin, sur les paupières de personnes qu'il rend témoin de meurtre pour qu'elles ne puissent pas fermer les yeux pendant que le tueur tue quelqu'un devant leurs yeux. Quoi. Voilà, c'est une idée particulièrement sadique, cruelle. Enfin, voilà... qui pose tellement de questions et tellement de voilà qui trouve tellement de comment dire qui se relie à tellement de thématiques chez Argento, c'est absolument fascinant, y compris dans le rapport qu'il a avec son public. Et hein, il y a vraiment des questionne son public, voilà. Et à partir de là, on dit Argento, voilà, c'est fini, plus rien d'intéressant, tout ça. Et on attend plus grand chose de lui. Et Argento, qui a déjà travaillé, hein, qui a remonté le film de Romero, les zombies, hein, Dawn of the Dead, et qui a ajouté la musique des Goblins, en fait, qui a fait... Enfin, pour moi, c'est la meilleure version des deux. Hein. Voilà, plus rythmée, en tout cas. Celle de Romero est plus intimiste, plus proche, ça étonnera pas ceux qui ont vu Knight Riders, par exemple, de voir le montage de Romero de Dawn of the Dead, mais la version d'Argento est plus efficace, mais la musique est meilleure, quand même. Dans la version d'Argento, il n'y a pas... Il n'y a pas à tortiller des fesses, comme dirait l'autre. C'est vraiment plus efficace. Et ben, y a une amitié qui s'est nouée entre les deux hommes. Et puis, ils décident de faire un film ensemble. Et ça va donner Deux yeux maléfiques. Et un film avec deux sketchs. Bon, le sketch d'Argento est pas mal. Le sketch de Romero, pas tip-top. Et puis, après, il va y avoir Trauma. Film américain, giallo un peu américain, où on traite de thématiques qui vont aussi des bouches, enfin, qu'on retrouve dans le syndrome de Stendhal, hein, c'est-à-dire qu'on a une fille traumatisée, elle est jouée par Asia Argento, comme l'héroïne du syndrome de Stendhal, qui est jouée par Asia Argento, elle a été victime de... trauma, tout est dans le titre, elle a forcément été victime d'un trauma. Ce film divise aussi, je trouve très intéressant. Effectivement, c'est moins bien, là, par contre, on est d'accord, mais je le trouve quand même très intéressant.
Le syndrome de Stendhal. Un voyage angoissant dans un monde de terreur indicible.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Le syndrome de Stendhal, écrit et réalisé par Dario Argento.
Et puis arrive 96, et là, 96, c'est le retour en force de Dario Argento. C'est-à-dire que arrive le syndrome de Stendhal. Le syndrome de Stendhal qui est réhabilité aujourd'hui, alors qui commence à on commence à avoir quelques critiques plus sérieuses s'emparer du travail d'Argento. Mais, en fait, le syndrome de Stendhal n'était pas tant apprécié que ça, hein, quand c'est sorti. Il a également divisé. En particulier sur la performance d'Asia Argento, les fans purs et durs ne pardonnent pas grand-chose à Asia Argento. Elle a souvent été très vilipendée quand même. Hein, là, en plus, dans cette édition du syndrome de Stendhal sorti chez Extra Lucid Film, il y a un documentaire qui la montre au moment du tournage du livre de Jérémy. On voit bien que c'est quelqu'un de torturé, que c'est quelqu'un d'assez entier. Et pour moi, qui apporte réellement à l'univers de son père, elle dit qu'elle a tourné avec son père, de toute façon, par amour pour son père, parce qu'il ne se parlait pas vraiment et que lui, il était enfermé dans son cinéma. Enfin bon, bref, c'est une relation un peu particulière. Ça interroge même certains critiques. cette façon qu'il a de la mettre en scène dans des rôles de femmes où parfois, bon, bah là, c'est un rôle très dur. Hein, et le syndrome de Stendhal, en fait, mais qu'est-ce que ça raconte, hein, c'est assez étonnant. Ça part d'un truc très simple. Alors, pour le coup, c'est une vraie création. Enfin, voilà. Argento explique souvent qu'il écrit ses films à partir de ses rêves. Bon, pas que, hein, mais qu'il a des visions dans ses rêves et qu'il retranscrit sur le papier pour essayer après de les inclure dans ses films. Là, on est en 96 et Argento va lire un livre de la psychiatre italienne Graziella Maggerini, qui est chef du service de l'hôpital psychiatrie de l'hôpital Santa Maria Nuova du centre historique de Florence, et elle va expliquer, c'est un livre sur le syndrome de Stendhal, ce fameux syndrome de Stendhal qui donne donc le titre au film. Elle décide d'en parler parce qu'elle a observé plus de 100 cas similaires à ce qu'a vécu Stendhal parmi des touristes en visite à Florence, qui est une ville magnifique, hein, tout est beau à Florence, hein, c'est le berceau de la Renaissance. Et oui, parce qu'en fin de compte, Stendhal raconte dans son livre autobiographique Rome, Naples et Florence, enfin dans plutôt une sorte de récit, comment, lorsqu'il a visité la basilique Santa Croce, il a été submergé par les émotions devant tant de beauté et qu'il a fait un malaise en fait, quoi. Hein, qu'il a failli faire un malaise, que son cœur avait du mal à battre et que ça l'a complètement décontenancé. De ce fait, c'est cette psychiatre qui va avoir l'idée d'appeler ça le syndrome de Stendhal, puisqu'elle va le rencontrer chez de nombreux touristes. Et parce que le syndrome de Stendhal, après, il va être étudié. Hein, il n'est possible ce syndrome que quand le sujet... Alors ça, c'est selon Rodolphe Oppenheimer, qui n'a rien à voir avec le film de Christopher Nolan, où il y a tout le temps de la musique de la première à la dernière minute, ni avec l'inventeur de la bombe atomique, mais qui est un psychanalyste et un psychothérapeute, et qui explique que le syndrome de Stendhal n'est possible que quand le sujet a une admiration sans borne pour l'œuvre d'art. Et donc, du coup, il est débordé émotionnellement par le sublime, hein, et bon, souvent aussi le sujet est un hypersensible pour être touché à ce point par une œuvre d'art. En gros, il va pas être comme moi, quoi, qui pleure pas devant les mélos de Douglas Sirk, comme ça, c'est pour embêter Thomas Roland, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. À partir de là, il va développer Argento un récit très particulier, et celui d'Anna Mani, une enquêtrice de la brigade anti-viol de Rome, hein, qui va à la Galerie des Offices à Florence à la recherche d'un tueur en série. Et il se trouve qu'elle va être victime du syndrome de Stendhal et qu'elle va faire un malaise, mais qu'en fait, dans cette Galerie des Offices, il y a le tueur en série qui est là. Et le tueur en série va débarquer, va essayer de la secourir en vérité. Ça va finir par instaurer une étrange relation entre eux. Et il va la violer, et puis elle va se venger, c'est une sorte de rap and revenge. Hein. Mais on ne va pas retrouver le corps de ce tueur qui est amateur d'art, hein, qui est un type assez raffiné. Elle, Anna Mani, va être, prise d'une sorte de pathologie mentale, pour en dire plus, hein, puisque depuis qu'elle a été violée, qu'elle a failli mourir, elle est suivie par un psychanalyste. Et la deuxième partie du film va basculer dans quelque chose de très étrange, où va rôder l'ombre de ce tueur dont on n'a pas retrouvé le corps, et où les victimes vont s'accumuler. Alors, tout cela est servi par une superbe musique de Ennio Morricone, que notre ami Argento, Dario Argento, retrouve longtemps après s'en être séparé, pour Profondo Rosso, et parce qu'il voulait quelque chose de plus rock'n'roll, et qu'il a débuté là une collaboration avec les Gobelins. Là, il y a aussi la photo de Giuseppe Rotuno, qui est quand même le chef opérateur de Visconti, de Fellini. Bon, le film a une vraie tonalité plastique assez particulière. Et puis, c'est aussi le premier film italien avec des effets numériques. Certains ont plus ou moins bien vieilli. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'Argento avait l'obsession de faire une scène où on voit un cachet entrer dans l'œsophage d'un personnage. Ce qu'il fait dans ce film, et qui en fait, certainement en numérique, est la scène la plus loupée, parce qu'elle est assez gratuite, en fin de compte. Hein, elle n'a pas une signification qui saute aux yeux particulière. Voilà. Mais à part ça, moi je trouve que les effets numériques sont incroyablement bien utilisés. La première heure du film laisse augurer le fait qu'on va avoir affaire à un véritable chef-d'œuvre. Et puis la deuxième partie du film, pour moi, est un peu moins convaincante. Et le final est magnifique. Voilà. Donc c'est un excellent Dario Argento. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un excellent Dario Argento pour moi. Sans doute, par contre, le meilleur film de sa deuxième partie de carrière. Je trouve que le début, la première heure, est sensationnel parce qu'il joue comme ça avec le syndrome de Stendhal. Il utilise le fait que l'héroïne voyage dans des œuvres comme ça. Elle peut passer de pièce en pièce, du présent au passé, puisque suite à son malaise, elle a perdu la mémoire. Donc pour reconstruire la mémoire, elle rentre en sidération devant des œuvres d'art et elle se retrouve dans des scènes du passé. Et nous, on reconstruit le puzzle de sa mémoire avec elle via ces crises liées au syndrome de Stendhal. Je trouve que c'est sublime, en fait. Il y a de la mise en scène tout le temps. Il n'y a pas un plan qui n'est pas travaillé, qui n'est pas... c'est absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, Argento a toujours posé une question dans toute son œuvre, c'est est-ce que l'art peut tuer ? Je crois que là, il donne un début de réponse. Et puis, en fin de compte, son héroïne devient une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'elle-même, elle devient une œuvre d'art, pas au sens body art, à la Cronenberg, par exemple, mais au sens où, lors du final, elle est au centre d'une Pietà, sauf que c'est une Pietà inversée. C'est une Pietà masculine bienveillante. C'est très étonnant, comme alors qu'on nous a présenté pendant tout le film une masculinité toxique. Donc c'est très très étonnant. C'est passionnant. C'est plus un film d'ailleurs. C'est en cela pour moi qu'Argento, c'est un cinéaste plutôt féministe. Moi je l'ai déjà dit, je pense hein, vraiment. Il a toujours mis en scène des personnages de femmes très modernes, en fin de compte, très féministes. Et cela, que ce soit le personnage du chat à neuf queues de cette fille d'industrielle là, qui est jouée par Catherine Spaak, que ce soit la journaliste dans Les frissons de l'angoisse. Il a toujours mis en place des personnages féminins très forts. Et puis surtout, il a tout compris de la psychanalyse, parce que c'est quand même un peu de la faute du père, et pas vraiment de la mère, en vérité. D'ailleurs, si on connaît bien Freud, on sait que c'est plus la faute du père que de la mère. Hein. C'est la faute de la mort du père qui crée ce surmoi, et donc la mort de Dieu, donc le surmoi qui se met à prendre le pouvoir et qui devient incontrôlable. Voilà. Et tout cela, on le retrouve, hein, parce qu'il y a la figure du père, hein, parce qu'elle va retrouver son père, à un moment, son véritable père et ses frères. Et le film, pour moi, traite bien de ce qu'est un viol, mais surtout des conséquences du viol, parce que le viol n'est pas très graphique en lui-même, mais l'ambiance est tellement oppressante, tellement sidérante en fait, que est tellement sadique, parce que le personnage est sadique, il joue un jeu avec une lame de rasoir, que la scène est marquante. Le film, pour moi, analyse très bien, puisqu'il y a une bascule suite à ce viol qui va se faire pour le personnage d'Anna Mani, et qui va basculer dans plein de pathologies mentales. Elle avait peut-être un terreau fertile, propice, mais ce viol va complètement bouleverser toute son existence. Et d'ailleurs, le final n'en est que plus beau, puisqu'on voit ces hommes savent ce qu'elle a fait et savent ce qu'elle a subi aussi. Du coup, ils n'ont pas du tout la même attitude. C'est assez étonnant. Moi, je trouve que c'est un film très troublant. Plus j'en parle, plus je me dis c'est peut-être un chef-d'œuvre, mais non, allez, je vais rester sur mon... C'est un très grand film d'Argento, pour moi, c'est pas son chef-d'œuvre, mais c'est quand même un très grand film. C'est vraiment un film assez passionnant. Je suis moins persuadé par la performance d'Asia Argento lorsqu'elle met sa perruque blonde et qu'elle est tourmentée. Je la trouve un peu moins... Le problème, c'est qu'elle passe derrière Kim Novak, quoi. Je veux dire, c'est une référence évidente à Vertigo sur Froide, et... C'est moins fort, mais ça reste quand même un sacré film, quand même. Vous écoutez Culture Prohibée spéciale Dario Argento.
Je ne suis pas totalement d'accord avec toi sur une partie du vision du film, mais j'ai commencé par donner mon avis. Le syndrome de Stendhal, si je ne me trompe pas, je crois que c'est mon Dario Argento préféré. Je pense savoir pourquoi tu l'aimes, parce que c'est un film extrêmement pervers et que tu adores les films pervers. Et je trouve que c'est un film qui est en effet particulièrement pervers, parce que la façon dont il met, dont il filme la violence et la perversité de son tueur, qui est joué par Thomas Kretschmann, j'espère que ça se prononce comme ça, c'est très particulier. En fait, il va prendre du temps pour montrer la violence, les agressions, il va mettre en avant tout le sang, notamment tout le jeu lors de la première agression avec la lame de rasoir, où il met bien en avant que Anna ne peut rien faire à part subir et le voir tuer quelqu'un d'autre. Il va lui la déposséder finalement de la force qu'elle est censée avoir, vu que c'est une policière, et il va en faire indirectement une femme comme les autres. En plus, le fait qu'elle ait perdu la mémoire, alors elle va quand même se débattre parce qu'elle perd la mémoire, c'est compliqué pour elle de vivre chez elle, vu qu'elle se fait attaquer directement là-bas. C'est pour ça qu'elle retourne chez son père. Chez son père, elle va reprendre la boxe, elle va se couper les cheveux, elle va partir dans un style un peu garçonné, mais il va quand même revenir. Et ça va redevenir très compliqué, vu qu'il la capture, il l'attache durant plusieurs jours dans un lieu isolé où il l'agresse tous les jours. C'est un film que je trouve quasiment insupportable, très dur à regarder. Il y a certains éléments qui sont intéressants, tu as parlé de l'utilisation de la 3D qu'on retrouve, mais c'est un film qui est d'une violence rare, en tout cas qui est une violence qui a beaucoup fonctionné sur moi, contrairement à ces précédents films qu'on avait pu voir. Le processus, ce qui est intéressant indirectement dans l'agression que subit Anna, c'est que elle perd la mémoire, ce qui fait qu'elle est dépossédée de qui elle était elle-même, qu'elle a subi ce syndrome de Stendhal où elle a totalement perdu l'équilibre et que face à une œuvre d'art, elle se sent partir en fait. Elle tombe pas dans les pommes, mais elle a généralement des visions, donc elle est mentalement instable. Elle se retrouve avec un traumatisme qui est extrêmement virulent, qui va la poursuivre tout au long du film, qui va même conduire après sa deuxième capture à ce processus de métamorphose où indirectement elle va devenir elle-même, va se mettre à ressembler à son tortionnaire, elle va se teindre les cheveux en blond. Alors je suis d'accord avec toi, par contre la deuxième partie, une perruque, oui. Elle va se mettre une perruque, mais au départ, on sait pas que c'est une perruque. Au départ, on se dit qu'elle s'est juste teint les cheveux, et c'est à une scène juste après qu'on se rend compte que c'est une perruque. Et il y a un processus de métamorphose qui se met en place qui est assez particulier, parce qu'au final, elle qui était la victime commence à avoir un peu un comportement inquiétant, le même que le tueur, tu l'as dit, un peu comme si c'était une œuvre d'art. Alors pas dans le sens où à la fin elle devient Sepieta, mais un peu comme si ce tueur avait fait d'elle sa chose, l'avait façonné suite à sa perte de mémoire, elle avait fait l'image qu'il le voulait. Il y a même un élément que j'aime bien, par exemple, dans la deuxième partie, tu as toute cette histoire avec un sculpteur étranger qui s'appelle Marie, si je ne me trompe pas.
Français.
On voit l'atelier où il travaille, qui est dans un musée au niveau de la restauration, avec un atelier qui est rempli d'énormes statues en pierre blanche, qui est extrêmement belle. Et là où le film devient... Alors, c'est la force d'Argento, c'est qu'il est toujours sur un entre-deux, mais je trouve que c'est un film anti-victime qui est assez affreux, enfin qui est peut-être un film anti-victime assez affreux, parce qu'au final la victime prend un comportement de tortionnaire, même si la fin marque un contrepoint que je trouve génial. Le dernier meurtre est extrêmement bien, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, et pour moi c'est un film qui est extraordinaire parce qu'il arrive à témoigner d'une violence qui est réelle à travers son imagerie et ses thèmes. Et c'est vraiment un film, je pensais pas que Argento pouvait autant m'impressionner, mais c'est ce qu'il a réussi à faire avec ce film.
Écoute, si Argento a réussi à t'impressionner, j'en suis fort fort ravi. Mais oui, évidemment que, alors c'est montré à plusieurs fois dans le film, il essaye de la façonner, évidemment. Il y a de cela sur l'influence néfaste des hommes sur les femmes aussi, parce qu'il y a un vrai discours contre la masculinité toxique qui va se développer dans toute la dernière partie de carrière d'Argento, qui est très très intéressant. On va le voir là quand on va parler d'autres films, parce qu'en fin de compte, il y a plein d'éléments du syndrome de Stendhal qu'on va retrouver dans les films suivants. Là, je vous dis, le syndrome de Stendhal, en tout cas dans le superbe coffret collector là qui est édité par
par Extra Lucide Film. Il y a énormément d'interviews, des dialogues entre Dario et Asia Argento. Il y a ce documentaire d'Yves Montmayer dont je parlais tout à l'heure, la Nice to Meet You, Please Don't Love Me, au moment où elle prépare le tournage du livre de Jérémy. Mais moi, ce que je retiens surtout, alors il y a les petites interviews de Dario Argento, d'Asia Argento, de Luigi Codi, mais c'est les analyses de Toré, voilà, ça je le dis. Et dans chaque coffret, il y a aussi un gros livret qui réunit plein de coupures de presse, plein d'articles sur les films. Le plus intéressant des livrets, pour moi, sera celui des derniers films, puisque Dario Argento n'en a pas parlé dans son autobiographie, et là, il y a des extraits de l'autobiographie dans les livrets. Par contre, la dernière partie, c'est des notes de production qu'on n'avait pas forcément lues, même les plus argentophiles de nous. Je vais continuer sur les autres films qui sont présents, là, qui sont sortis par Extra Lucide Film, parce qu'on a déjà été, on a déjà pris beaucoup de temps sur le premier film. Je vais revenir tout de suite sur Le Sang des Innocents. Alors, Le Sang des Innocents, qui est un titre français un peu étrange, mais en fait, c'est parce que le film de Argento s'appelle Non ho sonno. Ça veut dire j'ai pas sommeil. Et le problème, c'est qu'il y a Claire Denis qui sort un film la même année, hein, en 2001, qui s'appelle J'ai pas sommeil. Donc du coup, le film d'Argento hérite de ce titre un peu bizarre, un titre pourtant important parce que c'est il caractérise l'insomnie chronique du personnage principal. Alors cette fois-ci, à la photo, c'est Ronnie Taylor. Et c'est un film qui est dans le prolongement du précédent, puisque il y a une petite comptine qui a toute son importance. C'est une comptine qui a été écrite par Asia Argento. Elle ne joue pas dans le film. Il y a un flic qui est génial, qui est joué par Max von Sydow, un vieux flic à la retraite, immense acteur, en plus Max von Sydow, qui est une idée qui sera reprise dans Cortex de Nicolas Boukrieff, qui était l'idée d'un flic qui commence à être atteint d'Alzheimer. Et puis évidemment, difficile de ne pas faire le lien avec le personnage d'Anna Mani et de sa perte de mémoire dans le film précédent. Et puis, il y a un flic aussi qui s'appelle Mani, hein, dans le film, histoire de marquer la filiation. Et surtout, ce film va être un véritable carton, en fait, pour Argento. Le film sort en salle, le film est considéré... Alors, c'est un gros film, hein, il fait presque 2 heures, c'est assez rare pour un film de... Enfin, le syndrome de Stendhal aussi, mais le syndrome de Stendhal, c'est pas un giallo. Même si beaucoup le classent dans le genre giallo, c'est pas un giallo. Là, on est vraiment dans un pur giallo. C'est-à-dire que Argento revient aux sources et il décide de faire un décalque... Un peu étrange, un peu sardonique aussi par instant, de Profondo Rosso, de son chef-d'œuvre, des frissons de l'angoisse. Alors le film fait un gros carton, alors il annonce qu'il va y avoir des suites et tout, ce qui ne sera pas vraiment le cas en vérité. Hein. Et l'histoire, elle est assez simple, elle est très Argento en fait. C'est-à-dire que ça se passe de nos jours, enfin en tout cas en 2001, hein, quand le film est sorti. Et il y a un tueur en série qui sème la terreur en multipliant des crimes vraiment abominables. Et tout cela se passe alors que 17 ans plus tôt, la mère de Giacomo Gallo avait été assassinée sous ses yeux dans des circonstances similaires. On lui avait planté des instruments de musique dans la tronche et tout. Enfin, c'est très, très gore. Alors, le film, là, il est assez costaud aussi. Hein. C'est pareil, dans les effets gore, dans la violence. Et le meurtrier présumé à l'époque, qu'on appelait le nain tueur, hein, qui était donc un nain, avait été retrouvé mort. Et Giacomo, lui, revient à Turin. Alors évidemment, on est le retour à Profondo Rosso, donc on revient à Turin, puisque Profondo Rosso se passait à Turin. Pour une fois, ça ne se passe pas à Rome. Pour mener l'enquête avec l'aide donc, du commissaire à la retraite, Ulysse Moretti, ça ne s'invente pas, qui était autrefois en charge de l'affaire et qui donc a perdu la mémoire. Alors, c'est aussi le retour des gobelins. Le film démarre très fort avec de l'érotisme, femme nue, une prostituée qui s'enfuit, qui va chez un client. En plus, Argento joue sur la vue subjective. Elle va chez un client. Le client lui demande de faire des trucs assez particuliers qu'elle ne veut pas. Et puis elle accepte parce qu'il met une somme d'argent plus importante. Et puis elle trouve chez lui tout à coup des coupures de presse, tout sur le tueur. Et les crimes commis par ce fameux tueur qui serait mort. Voilà. Donc elle, elle prend conscience qu'en fait, elle est chez un psychopathe, donc elle s'enfuit. Et elle s'enfuit et par mégarde, elle emporte quelque chose qui appartient à ce psychopathe, ce fameux dossier bleu, je crois, dans mon souvenir, qui contient donc les, toutes les coupures de presse et tout, puis des éléments qui font que forcément, ça ne peut être que lui, le tueur. Et elle va prendre le train, tout est filmé de son point de vue à elle. Et là, à ce moment-là, le tueur va aller la retrouver dans le train. Elle a prévenu son ami. Son ami va la trouver morte. Son ami va prendre le dossier bleu, va s'enfuir. Et là aussi, elle va se faire tuer. Évidemment, on est totalement... Alors, c'est 20 minutes complètement extraordinaires. Alors, les 20 minutes du début du film, on fait croire à tous les fans que ça y est, c'était un chef-d'œuvre. Que c'était, ça allait être du niveau de Profondo Rosso. Mais le film, après, est très, très bon. Mais il va quand même, après, comment dire, s'enferrer un peu dans le giallo classique avec enquête, côté Woody Need, tout ça. Enfin, où du coup, ça va être moins... ça va aller moins loin dans l'aspect métaphysique et psychanalytique que pouvait aller, Profondo Rosso. Écoutez Culture Prohibée. Néanmoins, ça va donner un film qui est un exercice de style avec une esthétique flamboyante où on retrouve ses éclairages complètement démentiels, ses plans terriblement travaillés, puis il a une maîtrise de la mise en scène qui est démente, du cadre, du découpage. Les 20 premières minutes sont juste exceptionnelles. Il faut savoir que c'est pas tourné en studio, c'est tourné dans des trains en mouvement, vraiment, qui circulent la nuit. Donc on voit les scènes filmées à travers des trains qui roulent à vitesse normale. Enfin, c'est démentiel. Je sais pas combien de temps il lui a fallu pour tourner ça. Enfin, ils le disent, hein, dans les... Je m'en rappelle plus, mais enfin, je crois qu'ils en parlent dans les bonus et tout ça. Et ça donne quelque chose d'absolument démentiel. Les 20 premières minutes sont juste extraordinaires. Évidemment, on pense au double meurtre de Suspiria. En plus, les meurtres sont très graphiques, très violents. La mise en scène est donc très travaillée. Et puis, on retrouve tellement d'éléments, parce qu'en fait, c'est vraiment le petit frère caché de Profondo Rosso. Parce qu'en fin de compte, quand on revoit l'image du meurtre, du gamin, de la mère et du gamin qui était à côté et tout. En fait, il y a déjà les indices. En fait, on sait déjà qui est le tueur dès le début, si on cherche bien. Sauf que notre cerveau n'a pas fait le travail, comme dans Profondo Rosso. C'est un petit malin, l'ami Argento. Sauf qu'il y a cette appétence aussi pour les gens, comment dire, un peu hors normes, ce nain écrivain de polar, c'est comme, dont la mère est interprétée par Rosella Falk, une Rosella Falk, comme on veut, mais qui est une qui est une vraie légende en fait du giallo. Et puis on retrouve Gabriele Lavia qui fait le père du meilleur ami de Giacomo, qui est un juge si ma mémoire est bonne, qui était l'enfant de l'assassin dans Profondo Rosso. Donc on retrouve, il y a une vraie filiation entre les films. Et bon, le film est un giallo extraordinaire. Voilà, un giallo extraordinaire avec des moments de bravoure absolument démentiels. La musique des Gobelins, en tout cas le morceau titre, est très efficace. Celui qui sert à rythmer le premier meurtre, très 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 sadique. La mise en scène est très travaillée, les mouvements de caméra sont très élégants. C'est aussi un retour sur des thématiques chères à Argento. C'est l'enfance maltraitée. Voilà, c'est l'enfance maltraitée qui est quelque chose qui revient souvent, je le disais tout à l'heure, par rapport à Phenomena. Et donc, c'est pareil, hein, donc très belle édition avec un livret, tout ça, plein de bonus. Et effectivement, ce Sang des Innocents, jusqu'ici, n'était pas édité dans une édition extraordinaire. Il comptait déjà beaucoup de fans. Hein, les fans savent très bien que c'est un très bon Argento. Et donc, c'est vraiment ce film de 2001. Est vraiment un très bon film. Et ça va être un peu la douche froide après en 2004, quand Argento va sortir Il Cartaio, le Card Player, hein, le joueur de cartes. Il va raconter l'histoire d'une inspectrice qui s'appelle Anna Marie, alors évidemment, hein, c'est qui devait être jouée par Asia Argento, c'est le personnage du syndrome de Stendhal. Là, il est joué par Stefania Rocca, qui est une très bonne actrice. Une très jolie brune qui en même temps a un physique aussi qui est à la fois très belle mais aussi un physique de Madame Tout-le-Monde, et surtout, bon, c'est une actrice qui a fait ses preuves, hein, qui a joué dans pas mal de films, qui est très intéressante parce qu'elle est aussi très crédible dans son côté athlétique, c'est-à-dire qu'elle est effectivement très crédible quand elle est élégante et sexy, mais aussi très crédible quand elle fait la bagarre, quoi. On y croit, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout, elle n'est pas là à contre-emploi, elle est vraiment assez logique. Et puis surtout, on va lui mettre comme associé un flic britannique, un peu alcoolo, enfin un peu beaucoup, qui est interprété par l'excellent Liam Cunningham, hein, qui depuis s'est reconverti dans les rôles de vaillant guerrier vieillissant, comme dans Game of Thrones. Voilà, super acteur, hein, Liam Cunningham. Donc on a, parce que bon, parfois, et puis on a des acteurs débutants qui vont faire de très grandes carrières, comme Claudio Santamaria par exemple, et on a donc un casting composé d'acteurs de très haut niveau, parce que souvent on reproche à Argento que ses acteurs sont plus ou moins bons, plus ou moins mal dirigés, parce que c'est avant tout un esthète. Là il a de très bons acteurs, et Card Player, c'est la musique, et Claudio Simonetti, un des membres des Gobelins. Bon, malheureusement, la musique est un peu gloubi-boulga électro, pas très beau, hein, c'est pas très réussi. Et en fait, Argento, avec ce film, il veut pas répondre à Profondo Rosso, il veut répondre à Ténèbres. Il veut répondre à Ténèbres, il veut reprendre cette esthétique glacée, glaçante. Et donc, il ordonne lui-même à Benoît Deby, le fameux directeur de la photo, qui est pourtant capable de faire des trucs avec des couleurs chaudes et tout, de faire une photographie très téléfilmesque, avec une ou deux lampes pour éclairer, pas plus. Benoît Deby ressent même une certaine frustration. Pourquoi Argento me demande de faire de l'image moche? Et parce que Argento, il veut dénoncer cette esthétique d'Internet, cette société qui devient de plus en plus happée par des réseaux sociaux, par les multimédias, par des univers qui sont des univers liés à l'informatique, tout ça, qui pour lui n'ont aucune poésie, n'ont aucune beauté, qu'il n'aime pas du tout en fait. D'ailleurs, c'est une vraie thématique de tous ces films, parce que Max von Sydow, qu'on voit dans le film précédent, est un flic en fait qui n'arrive pas à travailler avec les nouvelles technologies, qui n'arrive pas à s'y faire. Et là, Argento montre comment les nouvelles technologies peuvent être utilisées au service du mal, et comment elles sont laides. Et donc, il nous donne à voir une image laide, une ville laide. Il filme des parties de Rome qu'on voit très rarement. C'est très très étonnant. Il y a toujours ce lien avec la nature, puisque c'est une sorte de pollen qui va permettre de trouver qui est l'assassin. Mais j'ai envie de dire, si vous êtes malin et que vous connaissez le pervers qu'est Argento, il y a un reflet dans un écran d'ordinateur dans la première partie du film qui vous dit tout de suite qui est l'assassin. Mais enfin, à la première vision du film, je ne l'avais pas deviné. Alors, par contre, la mise en scène est toujours aussi exceptionnelle. Hein. Mais cette esthétique très téléfilmesque est franchement désarçonnante. C'est une esthétique du moche. Et du coup, c'est vrai que c'est désarçonnant. C'est pas... Et puis, ce net... Cet internet que nous illustre Argento, bah c'est l'internet, vous savez, du gros boîtier qui fait cric cric. C'est effectivement, ça paraît un peu dépassé aujourd'hui. Et en fait, c'est l'histoire d'un type qui kidnappe des filles, qui est un tueur en série et qui joue en fait avec les flics et qui leur dit bon bah écoutez, on va faire une partie de poker en ligne. Et c'est une partie si vous gagnez, la fille ne sera pas tuée. Ok. Et c'est un tueur donc particulièrement pervers, évidemment. Hein. Alors, le film, en plus, ne comporte pas de meurtre graphique. C'est-à-dire que c'est un film très, très, très peu violent. Donc ça va désarçonner aussi ses fans, parce qu'on sort quand même du Sang des Innocents, qui est un film ultra-violent, un giallo très péchu, une esthétique très flamboyante. Et là, on a une esthétique très téléfilmesque, des meurtres qui sont ellipsés. C'est très, très étonnant. Et pourtant, il y a des scènes incroyables. À un moment, l'inspectrice, elle est attaquée chez elle. Argento joue avec la vue subjective. La caméra s'élève pour faire des plans en panoramique. Enfin, c'est impressionnant de maîtrise dans la mise en scène. Mais... c'est toujours avec cette photo très moche, c'est très très étrange, c'est un choix très particulier et c'est un film qui va reprendre aussi une des thématiques de l'oiseau au plumage de cristal puisque c'est sur des écoutes et c'est sur un bruit caractéristique d'un enregistrement, d'un appel passé par le tueur que... On va aussi pouvoir, parce que j'ai parlé du pollen tout à l'heure, mais ça c'est un premier flic qui va le découvrir son pollen, et l'autre flic va le découvrir grâce à ce bruit caractéristique qu'on entend en arrière-fond de l'enregistrement sonore. Et ça, qu'est-ce que ça vous rappelle? Bah, ça vous rappelle l'histoire de l'Ornithus Nevalis dans l'oiseau au plumage de cristal, qui est, comment dire, découvert par un anthropologue, un spécialiste des oiseaux, et qui dit ce que vous entendez là quand le tueur vous téléphone, c'est un Ornithus Nevalis. Alors, c'est une espèce d'oiseau qui n'existe pas, hein, c'est totalement inventé pour le film. Et il y en a qu'un à Rome, il est à tel endroit, dans tel... évidemment, du coup, on retrouve le lieu, enfin on croit retrouver le lieu où réside le tueur, forcément. Et là, c'est un peu la même chose, il y a un bruit particulier qui est présent. Donc on a ce film très singulier dans sa carrière qui est un vrai point de vue d'auteur, en fait, puisque Dario Argento nous décrit une société qui devient inhumaine, en fait. Avec le développement des nouvelles technologies, l'isolement qu'elles procurent, fait que on se déshumanise, on a de moins en moins de rapports sociaux. C'est très intéressant, hein, comme démarche, mais le film n'est pas une réussite non plus. Hein, voilà, on va pas se mentir, c'est pas une réussite. Par contre, je l'ai réévalué parce que je trouve que dans la démarche argentienne, dans ses thématiques développées, c'est totalement un film qui s'inscrit dans une poursuite logique et qui pourrait être mis en parallèle avec Ténèbres, donc de Dario Argento, où là, quand même, Argento avait une maîtrise encore plus grande de la mise en scène, mais qui était sur cette même idée. Alors, il le dit aussi, Jean-Baptiste Auré, dans les bonus, hein, mais sur cette même idée de décrire une Rome moche, une ville moche, ville qu'il aime tant, mais là, sous un aspect laid, c'est-à-dire sous un aspect de... Alors, à l'époque de Ténèbres, c'était l'arrivée de ces ultra-libéraux, de ces ultra-capitalistes. On sait maintenant, si on a lu surtout son autobiographie, que Argento se revendique d'être plus proche des communistes, hein, de l'idéologie communiste au sens noble du terme. Et... On découvre là qu'effectivement, alors c'était plutôt une critique du capitalisme, en particulier de l'arrivée de Berlusconi, qui comment dire, était en train de vampiriser toute la production cinématographique et de la tuer en fait en Italie. C'était ça que ça racontait en fait aussi Ténèbres. Hein. Et là, on a. On peut dire que c'est un point de vue réactionnaire, hein, puisqu'on a l'arrivée des nouvelles technologies qui ne conviennent pas à ce réalisateur. D'ailleurs, on le voit, il a un vrai problème avec les nouvelles technologies. C'est-à-dire que son Dracula 3D, ça ne va pas bien se passer. Ses effets spéciaux, alors c'était les premiers, donc on va être tolérant dans le syndrome de Stendhal, mais ils ne sont pas super réussis. Voilà, on sent qu'il a une sorte d'attirance-répulsion pour les nouvelles technologies et là qu'il repousse complètement.
Era salita in camera di un nostro cliente.
Prima di lei ci sono state tre vittime. Tutte prostitute.
Vous écoutez Culture Prohibée spécial Dario Argento.
Che cosa si ricorda? Ha detto che è stata inseguita in macchina.
Le dernier film sorti dans cette salve, édité par Extra Lucid Film, de très beaux, donc tous des très beaux coffrets dans des fourreaux avec des livres. En plus, là, avec le livret le plus intéressant, parce qu'il y a les notes de production de Dario Argento dedans. Là, c'est encore un truc particulier. Il faut savoir que Lunettes Noires, ça devait être, le giallo qui devait suivre, en fait, Le Sang des Innocents. Lunettes Noires, c'est un scénario de 2002. C'est un scénario de 2002, c'est au moment de l'éclipse. Donc il y a le lien. Alors évidemment, moi je trouve que Torel dit très bien dans les bonus. Hein. Bon. Parce que tous les critiques ont dit, c'est un hommage à Antonioni, c'est l'éclipse. Parce que Antonioni a fait l'éclipse. Bon, sauf que les deux films, à part qu'il y a une éclipse dans les deux films, je pense que le film, c'est autre chose. Hein, voilà. Argento fait ce scénario avec son ami Franco Ferrini en 2002. L'idée est simple. Une prostituée aveugle qui se retrouve être la cible d'un tueur et qui va essayer d'y échapper avec un enfant. Et là, tout à coup, le film sort et tout le monde redécouvre Argento. Pourquoi ? Parce que alors que c'était un vieux scénario. Alors, du coup, il est plus embêté là, parce qu'il n'y a pas de nouvelles technologies, il n'y a rien. Hein. C'est un film très naturaliste, en vérité. Hein. Et Argento laisse ce scénario de côté. Je parie, il passe à autre chose. Et c'est Asia Argento qui va relancer le projet, puisque lors du décès de Daria Nicolodi, donc la mère d'Asia Argento, l'ex-femme de Dario Argento, en fouillant dans les cartons, elle retrouve ce scénario. Et elle le lit, elle dit « Papa, il faut que tu fasses ce film. » C'est une super idée, quoi. Voilà. Et effectivement, pas étonnamment, parce que pour moi, c'est un cinéaste féministe, mais en tout cas, le thème résonne avec des préoccupations d'aujourd'hui. Donc du coup, qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire de cette escort girl qui est jouée par Ilenia Pastorelli, qui a un physique très particulier. Ilenia Pastorelli est presque un physique un peu surréaliste. Et c'est-à-dire une sorte de visage, on a l'impression que c'est un visage qui n'a pas vraiment d'âge, avec un corps qui paraît un corps presque façonné par la chirurgie, c'est très étrange, et qui était sublime déjà dans On m'appelle Gigrobot, elle était excellente dans ce film que j'adore, hein, On m'appelle Gigrobot, qu'on avait découvert à Gérard May, dont on avait longuement parlé dans l'émission, avec Léo Magnin d'ailleurs. Cette jeune femme, c'est une prostituée, elle va... Prostituée de luxe, hein, c'est une escorte. Hein. Le film commence par un meurtre assez gore quand même. Hein, un meurtre assez gore d'une prostituée qui sort d'une escort girl qui sort de chez un client où elle se fait trancher la gorge. C'est très très gore. Les gens essayent de l'aider mais elle se vide de tout son sang. Elle finit par mourir. Et on enchaîne avec... Parce que le début du film est très étrange. On a des plans comme ça, presque évasifs, presque élégiaques. De Rome, du ciel, dans un découpage très très maîtrisé, étonnamment. Les gens sont surpris parce que, quand même, le dernier truc de Dario Argento, je dis truc, c'est pas par provocation, mais c'est son Dracula de 2012 qui est quand même un film loupé, hein, faut dire les choses, qui est loupé. Voilà, tout comme son Giallo était loupé, son film qui s'appelle Giallo était loupé aussi, on en attendait beaucoup, c'est loupé. Et là, on retrouve quelque chose d'élégant dans la mise en scène, dans le découpage. Et elle se rend, cette femme, elle arrive à l'éclipse, et là, elle est habillée avec des couleurs chatoyantes, tout le monde a des petites protections pour regarder l'éclipse, elle met simplement ses lunettes de soleil. Alors, quand on connaît le titre Lunettes Noires, on sait qu'elle va être aveugle, parce que bon, on connaît un peu le pitch à l'avance, on pense que c'est là qu'elle va devenir aveugle, mais que nenni. Elle va aller s'occuper de ses clients, et puis en repartant en voiture, elle va se faire poursuivre par un type dans une camionnette blanche qui est le tueur, qui est un type assez agressif, et qui va projeter sa voiture sur une autre voiture dans laquelle il y a une famille asiatique avec un petit garçon qui s'appelle Chin, et qui va être le seul survivant en fait de cet accident. Et va se nouer une étrange relation entre cette femme devenue aveugle, qui est très autonome, hein, qui se sépare d'ailleurs de sa femme de ménage, puisqu'elle critique ses activités de prostituée de luxe, et aussi une amitié avec Asia Argento, qui va être sa guide pour chien d'aveugle, puisqu'elle va avoir un chien d'aveugle, et qui va lui expliquer comment travailler avec le chien, comment nouer une relation avec elle, avec le chien, pardon, avec lui. Et à partir de là, le tueur, on sait tout de suite qui c'est, hein, enfin voilà. On le devine tout de suite. Argento s'en fout, en fait, maintenant. Le tueur, il te le dit tout de suite, il s'en fout. C'est pas le sujet du film. Et le tueur va essayer de la poursuivre. Voilà. Donc, c'est une sorte de course-poursuite qui va finir par une course-poursuite dans la nature, comme ça, de nuit, avec des images très belles, des moments très argentiens, des moments où on va tomber dans la vase, comme ça, se retrouver confronté à des vers, à des fins très, 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 très étranges, pour finir dans une sorte comme dans un conte un peu maléfique comme ça. D'ailleurs, elle, c'est un peu le chaperon rouge, hein, puisqu'au début, on la voit tout habillée de rouge, tout ça, pour finir. Puis il y a aussi le côté Hansel et Gretel avec cet enfant qui est avec elle, pour finir dans la maison du malheur, la maison du diable, la maison de cet assassin, et enfin, avoir le soutien du meilleur ami de l'homme, qui reprendra une scène qu'on a vue dans Suspiria. Très, très marquante, hein, de Suspiria, sur un aveugle avec son chien, justement. Et ça donne un film très, très particulier. Alors, là aussi, il y a un flic qui s'appelle Marie, hein, dedans. Il y a toujours des liens, en fait, entre tous les films. Mais ça donne un film assez étonnant. On retrouve un personnage qui pourrait être une version... Une version glauque, en fait, du personnage de Jennifer Connelly dans Phenomena, puisqu'elle communique avec sa bête. Le film clôt aussi quelque chose, parce que le film se termine là où Suspiria commence, se termine dans un aéroport. Là où, alors, Suspiria commence pas dans l'aéroport, mais disons que le générique du film commence dans l'aéroport. Et puis on a ces visions éthérées de Rome très, très particulières, qui font que le film, alors c'est pas un chef-d'œuvre, hein, faut pas se mentir, c'est un film intéressant. Voilà, c'est un film intéressant, c'est le retour d'un grand réalisateur, d'un monsieur qui a 86, 87 ans, 86 je crois au moment où il fait le film, qui là va refaire un film d'ailleurs, est en tournage. Mais c'est un film passionnant pour qui aime Argento.
L'intrigue, la façon dont il a fait fonctionner, la façon dont il crée la pression qui commence à se constituer, c'est quelque chose qui participe à l'atmosphère du film. Qui n'est pas un film qui est fait solidement pour être réaliste, mais qui a cette atmosphère, comme je disais, qui est mystique et qui perdure un tout petit peu dans cette ville, comme tu l'as dit, qui est légèrement brumeuse, fantasmée. Mais c'est un film qui marque l'évolution de Dario Argento. Alors, c'est pas une grande évolution, comme je disais, c'est vraiment la technique qui change, et le fait qu'il y ait la technique qui change, ça le fait filmer légèrement différemment ce qu'il faisait avant. Alors, on retrouve, il y a beaucoup moins de macabre, mais il y a quand même des scènes macabres qui sont présentes, notamment quand la femme est égorgée ou lorsqu'on a l'accident de voiture, sauf qu'il les montre différemment, son œil a changé par rapport à ça. Ce qui serait intéressant, c'est de le comparer avec un autre giallo moderne, par exemple si on prend Malignant de James Wan, c'est pas du tout la même façon de filmer, ni les mêmes choses qui sont mises en avant. Il y en a un qui va partir sur quelque chose de plus fantastique, alors que, étrangement, Dario Argento, il nous fait quelque chose qui est beaucoup plus terre à terre. Alors, Lunettes Noires, je comprends pourquoi est-ce que les gens ont été contents de le voir et que ça a relancé Dario, parce que c'est vraiment un film qui est à part et qui arrive à dénoter... qui arrive à faire un lien finalement entre son passé et ce qu'il fait aujourd'hui.
On vous rappelle donc que ces quatre films sont indispensables. Donc, Le Syndrome de Stendhal, Le Sang des Innocents, The Card Player et Lunettes Noires, la dernière réussite de Dario Argento. Donc, ces quatre films de Dario Argento sont disponibles dans des superbes coffrets chez Extra Lucide Films. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne and The Last But Not The Least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.